Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le commentaire de
Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
Alors Steve, on va revenir sur la grand-messe du dimanche soir, la définition de débat, discuter en exprimant des avis contradictoires, donc on s'entend que c'était pas un débat hier.
Et non, puis je pense pas que c'était le but non plus. Faut dire là quand même, j'ai essayé de replacer ça dans un cadre un peu plus large. Au départ, quand j'ai vu la liste des invités, je me suis dit, bon, ça y est, tu sais, c'est... Mais quand j'ai beaucoup travaillé hier j'ai écouté la première chaîne, ça joue comme ça. Puis écoute, on a entendu dans la journée d'hier quand même des plaidoyers à Radio-Canada qui étaient de forts plaidoyers pour l'utilisation. En tout cas, tu sais, il y avait vraiment un contre-discours. Écoute, quand j'écoutais à l'émission de Franco Nuovo, Serge Bouchard, quand j'ai écouté aussi Danny Laferrière, je veux dire, il y avait une pluralité des voix, c'est pas ça. Mais ce qu'on a entendu hier, par contre, et c'est ce matin, en lisant le texte de Makakoto, ça me revient encore plus. Ce qu'on entendait hier, c'était une autre génération de militants qui de citoyens, mais qui aussi donc défendent une position. Donc on dira quand même militants si on veut, même si ce ne sont pas des militants professionnels pour la plupart. Ce qu'on entendait hier, comme l'explique Makakoto, c'est des gens qui sont radicalisés à l'aune d'une américanisation de la pensée des Noirs. Et là, ça c'est pas moi qui le dis, là. Je cite, je paraphrase un peu le Makakoto. Et j'ai beaucoup aimé qu'ils reviennent encore une fois sur les paroles sages de Aimé Césaire. Je le répète encore, à l'Université d'Ottawa, à une autre époque, dans les années 90, on pouvait enseigner un cours sur la négritude. Il ne m'a pas été enseigné par un Noir, mais bien par un Argentin et un professeur qui était d'origine argentine. Et on n'était pas dans cette rectitude politique d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de crispation. Je sais pas, tout à coup, j'ai été pris d'une espèce là de nostalgie, puis je me disais, mais le professeur était complètement libre d'enseigner sa matière et de nous présenter tout ce qu'il y avait à savoir, à apprendre, des débats aussi sur le concept de la négritude, et on le faisait, et on n'était pas dans cette espèce de je sais pas là, de mentalité d'aujourd'hui.
C'est un clash de génération, là. C'est une nouvelle génération de militants qui sont pas mal plus crinqués que les autres. Et moi, ce qui me jette à terre, c'est que c'est des antiracistes qui ne cessent de parler de race tout le temps.
Ben non seulement ça, puis ça traverse tout le discours, et souvent ça traverse le discours au détriment probablement de la cause qu'ils défendent. Puis je remercie un prof d'université qui m'a envoyé un texte que je n'avais pas lu d'un média qui est quand même somme toute de gauche, The Atlantic. Puis c'est un professeur qui est un contributeur du site du journal The Atlantic qui s'appelle John McWhorter. Puis c'est un professeur aussi à Columbia, et il parle d'une histoire qui est presque une copie conforme de ce qui s'est passé avec la professeur Verouchka, lieutenant Duval. On est en 2019. Laurie Sheck, c'est une professeure à la New York School in New York de création littéraire. Et puis, elle parle d'un documentaire sur James Baldwin qui avait fait une déclaration à la télévision en 1963 où il avait dit « I'm not your nigger ». Puis ça avait lancé ensuite un grand débat. En 2016, on fait un documentaire sur lui, mais ceux qui font le documentaire changent ils veulent pas dire « nigger », fait qu'on intitule
« Negro ».
Oui, « I'm not your negro ». Donc, tu sais de quoi je parle. Oui. Et la professeure, dans son cours, savant sur la création littéraire, une professeure qui, soit dit en passant, a été nominée pour un Pulitzer, elle dit le mot, bien sûr, parce que c'est absolument essentiel dans ce contexte-là, puisqu'on va discuter de pourquoi on est passé de un vers l'autre, et est-ce qu'il y a une traversion et tout ça. Donc, on est dans exactement le même contexte que ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. qu'est-ce qui arrive? Le premier à se plaindre, un étudiant blanc, qui est un étudiant woke, on peut le dire comme ça, il se décrira comme tel et s'ensuit ensuite, bien entendu, cette espèce de cabale et cette professeure-là, donc, qui a des dizaines d'années d'expérience, qui se trouve ensuite, bien sûr, harcelée, marginalisée. On connaît le processus. Dans ce cas-là, c'est un professeur, M. McWhorter, qui a pris sa défense et qui explique justement que le mot en N, parce que c'est le titre, « The idea that writers can't refer to the N-word », donc oui, les gens peuvent référer au mot en N. Et il y a des circonstances, et celle-là en était une qui le valait absolument. Ce que j'ai senti hier des quatre personnes qui étaient là et qui parlaient, aucune de ces quatre personnes-là sentait on dirait là que ça indisposait, même qu'on le prononce dans un contexte savant, académique. Mais si on est rendu là, on est complètement perdu, on est à côté de la plaque.
Mais comment ça se fait, hier, ils n'ont pas invité, je sais pas, un Macacoto, un Normand Brathwaite, un Danny Laferrière, un Boucard Diouf, c'était quatre personnes qui pensaient pareil. Moi, je suis désolé, mais c'est vraiment inacceptable.
Ben, il y avait, premièrement, là, quand j'ai regardé le segment, je ne voyais pas dans le plan de caméra, peut-être que c'est juste moi, là, mais je ne voyais pas la professeure Verouchka, lieutenant Duval, dans les plans de caméra. Peut-être qu'elle était sur le plateau.
Non, je pense qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle a parlé, puis elle est partie après.
Bon, ben voilà. Puis de toute façon, ça aurait été absolument, là, je veux dire, très cavalier de lui imposer sur ses épaules, qui sont déjà, soit dit en passant, pas mal lourdes après tout ce qu'on lui fait subir, d'être devant quatre personnes qui auraient été capables de la démolir, là, littéralement. Donc, moi, je pense pas que hier, c'était le but de faire un débat. Ce qu'on voulait dans l'antre de Radio-Canada, c'était offrir la parole, comme on dit souvent. Donc, écoutez, on voulait offrir la parole à quatre personnes dont on savait qu'ils étaient pour expliquer un peu quel est cet argumentaire-là, quelle est cette prise de position-là, ce ressenti-là de personnes noires par rapport à ce mot-là. Mais il faut dire, Richard, quand même, dans l'espace public, toi et moi, on en parle beaucoup, dans l'espace public, ceux qui ont voulu écrire et se dire qu'ils voulaient défendre, surtout au Québec, là, dans l'univers francophone, on manque pas de tribunes. Donc, tu sais, c'est sûr que j'aurais aimé ça, moi aussi, que ce soit un vrai débat, mais c'est pas le mandat de cette émission-là. On oublie parfois que c'est pas une émission d'affaires publiques, c'est un show, puis ils choisissent qui veulent inviter.
Ben oui, non, je sais bien qu'ils ont le choix, tout à fait, ils ont le droit d'inviter qui ils veulent, mais tu sais, ils sont mis à quatre pour taper sur le même clou. Et l'affaire sur cette génération-là, concernant l'antiracisme, c'est comme si la race te définissait. C'est comme si la race était le fin mot de ton identité. Steve, une identité, c'est complexe. Il y a ta race, il y a ta sexualité, il y a ton âge, il y a ton passé, il y a ton milieu économique. Il y a, tu sais, c'est riche, là, de dire, là, il y a un aspect de ta personnalité qui va te définir entièrement. C'est ridicule. C'est faux.
C'est drôle ce que tu dis là, parce que j'ai un de mes anciens profs d'université, un franco-ontarien qui un jour est déménagé au Québec, il est devenu indépendantiste, ce qui n'est pas le chemin habituel des franco-ontariens que je connais, mais il m'écrivait, donc on a une super belle conversation depuis quelques jours, depuis que ça s'est sorti, puis s'il y a un côté intéressant, c'est peut-être celui-là, puis il me disait, d'une certaine façon, l'époque de rectitude politique dans laquelle on est présentement, elle est née le soir du référendum de 1995. À partir de ce moment-là, il y a eu comme une espèce de crispation par rapport à ce qu'on pouvait dire et ne pas dire. Jacques Parizeau l'aura subi toute sa vie parce qu'on a redéfini son héritage politique. On a redéfini tout ce qu'il a donné au Québec en fonction d'une phrase échappée, peut-être au mauvais moment. En tout cas, moi, je suis pas certain qu'elle était si mal formulée que ça, parce que l'histoire semble bien lui
donner raison. Non, c'était rien de le timing. C'était peut-être le moment de le dire, mais la phrase, je pense qu'il avait tout à fait raison, là.
Oui, mais à partir de ce moment-là, Richard, il s'est installé un genre de climat déjà au Québec. C'était le début de ça. Et je trouvais intéressante cette affirmation-là, et on peut en débattre, mais une chose est certaine, c'est que maintenant, dans l'univers de maintenant, moi, je connais des profs qui justement, là, des profs au cégep, des profs à l'université, dans des conversations privées, on me fait des captures d'écran, puis on me dit, ben, vois-tu, ça, c'est ma sœur, elle enseigne à tel cégep, ben, elle ne va tout simplement plus parler de ces œuvres-là, parce qu'on n'a pas le goût, parce que ça nous tente pas, parce que tu veux pas être pris dans un tourbillon comme celui-là. Puis au final, ces militants-là gagnent quand on fait ça. Puis j'ai beaucoup de respect pour ceux qui décident en ce moment de prendre la parole, puis de dire, comme Serge Bouchard le fait hier, que c'est ça. Moi, il va y avoir des militants, des jeunes militants qui vont venir me dire de pas dire le mot sauvage après 40 ans à défendre le racisme et à m'intéresser à la culture amérindienne en Amérique. Ils les envoient promener, puis pas juste un temps. Mais c'est pas juste des Serge Bouchard que ça nous prend. Ça nous prend aussi des plus jeunes qui sont dans les collèges, qui sont dans les universités et qui vont se lever, qui vont se regrouper puis qui vont dire, savez-vous quoi, à ces gens-là qui veulent nous imposer de taire des mots puis en même temps aussi leur mémoire, ben on leur fait le doigt du milieu puis on leur dit, allez chez le diable, parce que c'est pas vrai qu'on va faire ça. Parce que chaque fois qu'on va taire un mot, on va taire aussi sa charge positive et toute son histoire. Et ça, faut jamais céder à ça.
Mais tu sais que dans tous les mouvements idéologiques, il y a des modes, là, tu sais. Oui. Dans les années 60, dans les universités, entre autres en France, c'était le maoïsme, là. Toutes les jeunes étaient maoïstes, tout ça. Ça passe. À un moment donné, ça passe. Ce sont des modes. Là, on est en plein dedans. Mais, tu sais, dans 5 ans, ça reparlera. Ça va être autre chose. Ça va être passé, là.
J'espère que t'as raison, mais il y a quelque chose de différent. Quand j'étais moi-même très, très, très à gauche, puis que la première fois qu'on m'a proposé d'écrire dans un journal papier, ça s'appelait La Gauche, puis c'était le journal qu'on voyait passer dans les manifestations du début des années 90. Souviens-toi de la réforme Robillard à l'époque. Hey, écoute, on s'était battu comme ça, comme les jeunes en 2012, là. Fallait pas que ça passe, puis c'était la première fois qu'on m'a demandé d'écrire des textes. Mais à ce moment-là, il y avait pas cette espèce de dynamique des réseaux sociaux. On voulait créer cette dynamique-là. On essayait, on faisait des manifs, on voulait, mais ça fonctionnait pas. Aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup changé. Puis il y a des courants de pensée extrémistes qui finissent quand même par être capables d'avoir une résonance beaucoup plus grande à cause de ça dans l'idéal, dans l'imaginaire collectif que ce que nous, on était capable de faire à cette époque-là avec un petit journal comme ça qu'on lançait et pour lequel il y avait, oui, quelques milliers de personnes, peut-être une dizaine de milliers de personnes qui lisaient. Mais somme toute, on était quand même dans une petite chambre d'écho. Les chambres d'écho aujourd'hui sont immenses pour les... Ouais. Regardons les complotistes, par exemple. Je veux dire, fut une époque où ça a été risible, cette affaire-là.
Donc, t'as raison que les médias sociaux ont changé complètement la donne et donné un pouvoir. Écoute rapidement le deuxième sujet, The English Are Waking.
Le texte de Michel Girard sur l'histoire là, de ce tenancier là, d'une coopérative, un logement coopératif. En tout cas, je disais ça dans la presse, là. Puis pour ceux qui pour le contexte là, une personne qui laisse une note en français, puis là ben ça fait jumper quelqu'un dans, si je pense c'est dans un tic, ça s'est passé à Montréal. En tout cas, quand on parle de crise linguistique, il va falloir qu'on s'habitue à ça. En 2012, ça m'a fait penser à ça. Pas que je veux là jeter de l'huile sur le feu, mais en 2012, qu'est-ce qu'il criait Richard Henry Bain quand on l'a arrêté? Il criait The English are waking, The English are waking, puis tout ça. Les Anglais se réveillent. Puis ça me revient ça, parce que c'est un moment important de notre histoire récente. Ce qui s'est passé là, on a essayé de l'enterrer bien profond. On s'en était parlé, toi et moi, Richard, quand c'est l'anniversaire de cet attentat-là, on essaie de pas trop en parler, mais quand même, je veux dire, moi, ce que je vois à Montréal, puis ce que je vois aussi un peu partout dans le Canada anglais versus le Canada français, de plus en plus, on revient à une manie de mépriser les francophones, et pas juste les francophones du Québec, les francophones du Canada. Joseph Bonterriot, justement, dans ce texte d'Émilie Dubreuil, hier, lumineux, encore une fois, sur Radio-Canada, par rapport aux dissensions linguistiques, par rapport à la question de l'Université d'Ottawa. Lui, c'est un Acadien, puis il l'a dit bien, écoute, on revient quelque part, c'est dangereux, ça. Et il va falloir qu'on porte une attention à ça, parce que la première chose, semble-t-il, que les militants radicalisés de l'Université d'Ottawa ont vu quand ils ont constaté qu'il y avait 34 personnes qui voulaient appuyer un professeur, ils ont quand même vu que c'était des grenouilles. C'est de ça qu'on a parlé en premier. On dit, regardez les frogs.
Écoute, hier, je devais faire une course, puis ça m'a amené dans le coin de Westmount, et là, on avait besoin de vin. Ma blonde va à la SAQ à Westmount, et là, elle se fait dire bonjour, aïe. Et là, elle lui dit, ben pourquoi vous dites bonjour, aïe? T'sais, elle dit, oui, c'est parce qu'on est à Westmount, il y a beaucoup d'anglophones. Elle dit, oui, mais vous êtes la SAQ. Vous êtes la SAQ, vous êtes une branche du gouvernement du Québec. On dit bonjour, elle dit, là, la fille a dit oui, mais c'est parce qu'ici, ils comprennent pas le français. Fait que là, elle dit, OK, parce qu'ils comprennent pas le français, ben, c'est leur maudit problème à eux autres. Vous êtes la SAQ, si vous parlez en français.
Bienvenue dans la nouvelle réalité du Québec. C'est pas, oui, c'est à Westmount, on le sait, si tu t'en vas à Pointe-Claire, tu vas te, ou, tu sais, dans le West Island de Montréal, ça arrive souvent. Nous, en Outaouais, on sait les endroits où, quand on va arriver à certains endroits, on sait très bien qu'on va se faire servir en anglais parce que 80% de la population, s'exprime d'abord et avant tout et presque toujours en anglais. Tu sais, fait que, c'est ça, je pense qu'on n'a pas fini avec ça. On entre dans une nouvelle dynamique linguistique et ça va être probablement là, la prochaine grande épine au pied de Simon-Jolin Barrette puis du gouvernement de la CAQ parce que eux, il faut qu'ils essaient de redresser ça et ça va être difficile à faire passer à Montréal. Et si on pense que les militants sont assez énervés quand on parle, par exemple, de la question de l'Université d'Ottawa, attendez, mais quand on va commencer à discuter de la langue, là, ça va...
Oh, c'est vrai, t'as raison, là, ça va être explosif.
La fournaise va monter.
Mais bonne journée, Steve, à demain.
Oui, salut, à demain.